Autre radio, autre culture, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Freddy Papritz. Bonjour, Freddy. Non, c'est Freddy, c'est tout.
Non, mais ça vient en fait. On a toujours du mal au premier coup, puis après, deuxième coup, troisième coup, et après, ça rentre bien. Après, ça le fait tout seul. Il y a des gens qui bloquent un peu plus longtemps, mais à partir de ce moment-là, il faut l'écrire et ça se passe bien.
Freddy, bonjour, est artiste, peintre, sculpteur, en fait, plusieurs cordes à ton arc. Tu vas nous en parler pendant toute l'émission qui t'est ouverte. Et nous avons bien sûr la participation de Christophe Bouillot.
Bonjour Marion, bonjour Freddy.
Comment est venue cette passion pour l'art ?
Alors, la passion pour l'art, elle a dû naître assez tôt, inconsciemment. Je pense que ça date de la petite enfance, où j'ai toujours aimé bricoler, démonter des choses, démonter des magnétoscopes, des télévisions, des choses. J'aimais être en rapport avec mes mains et mettre en rapport avec les matières. Je pense que je me suis développé dans le street art parce que c'est ma génération et que j'avais envie de faire des choses à ce moment-là. Donc, ça s'est posé à travers ce qu'on faisait à l'époque, les graffitis, des sculptures de rue, différentes façons d'expression de nos générations en fait. C'est un peu né, j'ai toujours eu l'impression d'avoir que ça à faire dans la réalité. Et c'est ma psychanalyse aussi en même temps, c'est-à-dire que si je ne le fais pas, je suis très malheureux.
Qu'est-ce qui t'a intéressé dans le street art ? Parce que le street art, c'est quand même quelque chose d'un peu anonyme.
Alors, ce qui m'a intéressé dans le street art, en fait, c'est assez simple. C'est tout simplement que j'avais envie de faire des choses et qu'il n'y avait que dans la rue qu'on pouvait l'exposer à l'époque. C'est-à-dire que on n'avait pas la porte ouverte aux galeries, on n'avait pas accès aux institutions. Donc si on avait envie de montrer ce qu'on faisait, ça se passait dans la rue. Et en même temps, c'est dans cette génération, ça s'était développé déjà avec les milieux punk à travers les pochoirs ou le rock alternatif. On voyait déjà des choses qui se passaient dans la rue. Le théâtre de rue était déjà né. Donc on avait déjà des groupes, des teams dans la rue pour créer, pour faire des actions, pour faire des événements. Donc en même temps, c'était la porte ouverte à la création pour nous. De facile d'accès et un peu protégé aussi, puisqu'on fonctionnait, on n'était pas tout seul, on n'était pas lâché dans la rue.
Alors, moi, étant aussi d'une génération informaticienne, quand je regardais ces graffitis dans la rue, j'avais toujours tendance à avoir une espèce de représentation artistique des polices informatiques. Quand tu as ta liste de polices que tu dois choisir pour un texte, dans les fontes, et je me disais, tiens, ils sont en train de travailler des polices finalement et en train de représenter des choses qui viennent de leur imagination pour avoir un nouveau style de lettres. Est-ce que tu l'avais vu comme ça ? C'était quelque chose de totalement qui ne te venait pas à l'esprit ?
Si, les styles de lettres et les typos nous ont toujours intéressés dans les ordinateurs ou dans les typos concrets. Après, non, c'est le jeu de la typographie. En fait, moi, je trouvais ça très intéressant à l'époque parce qu'on se disait beaucoup qu'en fait, on relançait un peu la calligraphie. Notre calligraphie européenne n'existait plus. On avait une calligraphie arabe qui était sublime, une calligraphie japonaise, chinoise, qui quand même avait un vrai niveau. Et notre calligraphie européenne, depuis les enluminures des moines qui étaient sublimes, on n'a pas grand-chose, en fait. On a une très formel, et donc là ça permettait de vraiment développer la lettre, de retrouver le symbole de la lettre. Ça, c'est la partie noble du tag, on va dire.
Et ce côté un peu, anonyme du tag, ça ne t'a jamais gêné ?
Le côté anonyme. En même temps, moi, dans ma carrière, le tag, c'est pas forcément. J'ai vraiment développé un autre moyen d'expression que le tag. C'est-à-dire que le tag, c'est tout le monde a un tag, tout le monde a un blaze, tout le monde a un nom, en fait. C'est une identification. Elle est anonyme, mais elle est pas si anonyme que ça. Elle est anonyme que pour les gens qui ne font pas partie du milieu. Parce que dans le milieu, en fait, très vite, en fait, tout le monde savait très bien qui était qui ou qui avait fait quoi. Et en fait, le côté anonyme permettait aussi, vu que c'était quand même quelque chose d'hors la loi, de permettre d'être assez discret et de passer entre les mailles. Parce que si on signait de son nom de famille, on était facilement retrouvable en bas de la maison. Si on marque son nom de famille, c'est compliqué. Même les parents, je pense que ça se passe pas bien. donc c'était le moyen aussi, l'anonyme. Je pense que c'était plutôt un bon moyen de se protéger.
C'est de l'anonymat social.
C'est de l'anonymat.
Au sens large, mais voilà. Une signature reconnue par les membres du clan, en fait.
Par les membres du clan. On peut les avoir
culture,
aussi, complètement. On peut les avoir, par exemple, qu'on soit tagueur ou pas tagueur. Tout le monde a vu des boxeurs. Personne ne sait réellement qui c'est. Très peu de gens savent qui c'est. Mais dans le fond, tout le monde l'a vu. On identifie quand même. Il a beau être anonyme, c'est un anonyme très connu, quoi.
Est-ce que tu as fait partie, parce que je me souviens, il y a une douzaine d'années, je discutais sur des chats comme Mediastock avec des gens spécialisés justement sur le graphisme de rue. Et j'en avais qui étaient tellement spécialisés qu'ils faisaient faisait partie d'équipes qui partaient, par exemple, on leur envoyait une mission d'aller, une mission entre guillemets, parce que c'était pas quelque chose d'institutionnel, on les envoyait comme ça à 800 km pour aller décorer ou aller peindre sur le mur de tel endroit dans telle ville, et donc ils y allaient en équipe, et c'était vraiment des artistes mais qui s'exprimaient comme ça. Est-ce que tu as fait partie de ce type d'équipe?
J'ai fait des choses comme ça, mais en sculpture. Sinon, sous forme de fresque aussi. On ne peut pas forcément appeler ça du graffiti, parce que c'était plus des dessins muraux. Et bon, en plus, ce n'était pas exécuté forcément à la bombe, donc je ne peux pas forcément appeler ça du graffiti. Mais effectivement, on a fait ce genre de choses. Bah, des fois, c'est pour des mairies. Donc les mairies nous demandaient ça. Ça nous permettait en même temps d'avoir un certain crédit. Avec les mairies, on montait notre dossier. Après, on les intéressait parce qu'on s'occupait de jeunes des quartiers. On faisait des systèmes d'ateliers. On les faisait travailler autour du graffiti, donc après ça nous permettait d'avoir une certaine notoriété, une certaine reconnaissance, parce que quand on le pose en vandale la pièce ou le graffiti, et ben c'est au petit bonheur de la chance de celui qui va le voir, de ce qui va se passer, c'est son histoire, tandis que quand on a déjà l'événement est déjà un peu créé comme ça, on a une histoire autour, donc on va essayer de la ramifier de façon à ce qu'elle tienne debout. Vu qu'on vient de la rue, ben on va s'occuper plus des jeunes des quartiers, ça leur fait un stage autour de ça, ça cadre et ça explique peut-être un peu notre démarche de faire ce genre de choses, ça l'appuie, je pense que c'est une partie nécessaire. Je pense qu'un peu tous les grands graffeurs, bien que je n'en sois pas un, ont toujours fait des choses comme ça en collectif ou avec des mairies ou avec des associations ou avec des magasins pour justement poser un peu le pitch.
Lorsque l'on regarde les vidéos qui sont sur Internet parlant de toi, te montrant, on montre des démonstrations de ton art dans la rue en train de peindre un tableau. Mmh. Ceux qui te présentent parlent de graffiti. Pourtant, ce sont des scènes avec des personnages. C'est vraiment un tableau, je dirais. Ça n'a rien à voir avec la police, justement, que l'on dessine sur un mur. À partir de quand tu es passé d'un stade à l'autre ?
Alors en fait, ce qui se passe, c'est que les tableaux en question... Non, en fait, moi j'ai toujours fait ce qu'on voit en général sur ce genre de vidéos, c'est-à-dire que dans le domaine du graffiti, j'étais pas dans le lettrage du tout, j'étais quelqu'un qui faisait des personnages, qui dessinait les petites bestioles qu'on va voir autour dans les graffitis, les choses comme ça, j'étais pas du tout dans la lettre. Donc en fait, moi, je dessine toute la journée dans le métro, les idées. Donc en fait, mon tableau, c'est une réunion de plein de petits croquis que je vais mixer ensemble, puisqu'on est dans une génération où on va mixer nos idées. Donc alors, dans mon tableau en question, j'aime bien pouvoir reprendre des pièces, des anecdotes de maîtres et les mélanger avec quelque chose de très, très, par exemple, art primaire. Ensuite, je vais mélanger ça avec un contour graffiti. Et c'est un peu ce mix-up qui m'intéresse au travers de la peinture. Maintenant, dans la rue, c'est vide et on remplit l'espace. C'est-à-dire qu'on est face à un mur et on a un contact avec le public. J'aime beaucoup ce truc-là. C'est pour développer aussi de la peinture devant les gens. C'est pas réellement du graffiti, effectivement. Je dessine dans le métro. J'ai toujours contact avec les gens quand on dessine. On a des tas de réactions. C'est quelque chose de très humain, en général, qu'on partage. Et de le faire dans la rue, ça prend un peu de temps, effectivement. Mais on a tout un contact. Et surtout, on est confronté à la technique et au devant de la scène, en fait. C'est un peu une scène, la rue, je pense, quand on fait ce genre de choses.
Dans tes tableaux, tu as des représentations féminines. Je te dis Barbarella ou Lara Croft?
Les deux, j'aime bien. Les deux sont très importantes, on va dire. Barbarella, Lara Croft. Alors, effectivement, j'aime bien parler de nos icônes, c'est-à-dire que tout ce qui nous a rempli quand on était gamin, Barbarella, je l'ai dû le voir autant que j'ai dû jouer à Lara Croft, mais c'est de les peindre, de les mettre en situation, de les mélanger ensemble sur l'étoile pour qu'ils deviennent des références de notre culture, puisque pour moi, la bande dessinée, la science-fiction, c'est aussi la culture qui a évolué, donc il faut la représenter au même titre qu'il faut représenter la culture d'avant. Donc dans le tableau, je vais chercher à mélanger ces icônes. Mais quand on dit Barbarella et Lara Croft, on peut trouver peut-être Carmen qui est derrière, on va pouvoir trouver des Salomé ou d'autres personnages. Là, on parlait de personnages féminins. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est de les mettre ensemble et de les faire jouer ensemble et de les représenter, en fait. En fait, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de toucher les gens. On ne touche pas les gens avec la même chose. Et donc là, ça me permet de... Je vais toucher quelqu'un de très jeune avec un dessin qui lui est propre de sa génération, que mes enfants m'auront inspiré, de ma génération, sur le même tableau, puis beaucoup plus vieux, même on peut passer à des Cléopâtres pour d'autres. Et sur le tableau mixé, différentes personnes se reconnaissent à différents points dans le tableau. Et ça, c'est ce qui m'intéresse, c'est cette émotion au moment où pour moi, j'ai réussi quelque chose, quand la personne se sent rattachée à mon tableau par un des points. En fait, c'est ce contact. Je pense que c'est un langage. Ma peinture, je voudrais que ça soit un langage, en fait, et que chacun y trouve un peu son petit reflet de miroir dedans.
On sent pourtant que tu es dans tes tableaux, que tu as été très inspiré, ou tout au moins que la bande dessinée a été pas un passage obligé, mais t'as fortement impressionné dans ton art.
Alors la bande dessinée, en fait, elle m'a complètement traumatisé, on va dire, dans ce sens-là. J'ai fait que de lire de la BD tout mon temps d'enfant. On me disait toujours, mais lis d'autres livres que la bande dessinée. Il y a plein d'autres choses. Donc effectivement, pour moi, j'ai construit ça. Mes comics, je les ai vus comme des dieux grecs, dans le mythe. Hein. Et donc, en fait, ça m'intéresse toujours de représenter ces trucs-là, que ça soit en sculpture ou en peinture. Si je vais faire un gros robot ou un gros Superman, ça va être comme si je faisais un gros Mars. Je voudrais que la bande dessinée prenne une place dans la culture comme peut être un Voltaire, comme peut être un Barjavel. Je voudrais qu'un Bilal, qu'un Hergé, qu'un Moebius soit salé aujourd'hui, de toute façon. Donc je travaille pour cette cause, effectivement.
Et Manara aussi.
Mais parce que j'ai pas le temps de tous les citer, ils sont tellement. Ouais. Mais effectivement, je les reconnais bien tous et je les respecte bien. Et aussi, sinon, ce qui m'intéressait dans mes tableaux, c'était un vieux fantasme. J'avais envie de me mettre dans un canapé, mettre une toile en face de mon canapé, de regarder ma toile et de me dire c'est une bande dessinée, mais j'ai pas besoin de tourner les pages. Dans moi, ce que je vais prendre dans mon compte, quand je vais regarder ma bande dessinée, je vais tourner les pages, j'avais envie d'avoir la même sensation face à mon tableau sans rien faire, complètement passif.
J'espère que je ne vais pas te vexer. Quand on est gamin, on a un bouquin qu'on nous offre souvent qui s'appelle Charlie. Alors, c'est Charlie avec ses aventures. Et c'est un. Alors on ouvre une page, on en a pour des heures parce qu'il faut retrouver.
Il faut le chercher. Waldo ou Charlie, oui.
Voilà. Il faut le chercher. Et il y a des quantités de personnages, des quantités d'animaux, des quantités de paysages.
Presque pareil, il y a des fins.
Des fins. Et alors, c'était la première chose qui m'est arrivée quand j'ai regardé tes tableaux. Je me suis dit, mais oui, Charlie.
Voilà, et des fois il y est.
Et des fois il y est.
Voilà, je ne suis pas du tout vexé, j'adore. Des fois je l'ai mis, juste son petit pantalon rayé, ou son pull, ou son chapeau noir. Non, effectivement, j'aime beaucoup ça, et dans les tableaux, ce que je vais trouver drôle, c'est aussi, je ne vais pas forcément travailler tous les personnages, il y en a d'autres que je vais juste esquisser, de façon à ce que ça soit le cerveau qui le retrouve à un moment, qu'il y ait ceux qui sont en premier plan, ceux qui sont juste insinués, qu'il y a un travail quand même à faire, puisqu'il n'y a pas de scénario écrit. Mais il y a quand même une histoire à travers la toile. Il y a une ligne en général et on peut le découper. Il y a une histoire racontée en général à chaque fois. Alors sur des thèmes, effectivement, le tableau que tu as dû voir, c'est sur les héroïnes. Mm-hmm. J'en ai plusieurs d'ailleurs sur les héroïnes. Mais j'ai fait aussi des tableaux qui vont parler du métro, par exemple, où ça va être que des scènes de métro avec que des couloirs qui s'embriquent les uns dans les autres et où tous mes personnages sont traités en gris, alors que les couleurs sont sur les murs, parce que dans le métro, tout le monde est gris. Donc je vais parler de ça là-dessus. Après, je vais faire un constat un peu que j'ai appelé mon slam, de notre situation climatique, et où je vais placer plein d'informations de ce qu'on voit dans la presse, de ce qu'on nous dit, de ce qu'on pense, de aussi de vision futuriste dans ce genre de choses. Donc je vais développer un tableau un peu là-dessus aussi. À chaque fois, j'essaye de détourner vis-à-vis d'un sujet, en fait, de raconter vraiment une histoire à travers d'un sujet. C'est pas juste des personnages que je vais pimper sur la toile, c'est je voudrais que la toile en elle-même, les personnages se répondent. En général, j'essaye toujours de travailler là-dessus. Alors ça, c'est dans ma partie peinture, effectivement. Là, je travaille aujourd'hui sur une série qui est sur affiche, parce que je voulais redonner un peu un petit truc dans le street art, parce qu'on avait travaillé effectivement la sculpture de rue, le graffiti fonctionnait bien. Je voulais trouver un nouveau support qui était vraiment underground. Donc en fait, la publicité, depuis qu'on est tout petit, on a des placards de publicité partout, à droite, à gauche, on les suit dans tous les sens. Et là, le principe était de se servir de ces images qu'on connaît par cœur et de coller nos informations et notre culture de nos autres images qui sont la bande dessinée, la science-fiction et aussi d'autres codes. On parlait de Lascaux tout à l'heure, si on a envie de faire un petit clin d'œil, on le fait. Sur les affiches, j'ai appelé ça Pim Press et en fait... Alors des fois je vais le traiter avec humour, des fois ça va être de la révolte, des fois ça va être de l'amour, mais je vais essayer de faire en fait un message entre le personnage que je vais pimper et l'information qu'il y a sur l'affiche. En fait, c'est un jeu que je vais essayer de trouver, qui est moins élaboré, mais qui est dans la même ligne que la peinture.
Alors ça, c'est le cadre de l'exposition qui va avoir lieu, je vous reprends la date, du 8 décembre au 15 décembre, donc l'exposition Pimpress,
voilà.
Qui est 19 rue de Miromesnil, à la galerie GZ.
Dans le 8e à Paris.
C'est dans le 8e à Paris. Et tu présentes combien d'œuvres à peu près ?
Alors, je présente un nombre d'œuvres, un certain nombre, c'est-à-dire qu'il y en aura qui seront exposées et beaucoup aussi qui seront en stock, parce qu'en fait, moi je préfère faire une installation où c'est pas trop surchargé et avoir des pièces que je fais tourner tout au long de l'expo. Ce qui me permet aussi, en général, que quand la pièce part, j'ai toujours d'autres pièces à changer et qu'à la limite, bah, c'est évolutif, les pièces changent.
Donc il faut y aller tous les jours pour voir.
Bah, le vernissage est le moment sympa parce que c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec GZ, c'est qu'on voudrait faire à chaque fois des événements où les gens viennent pour un événement qui ne sera pas ce qu'ils vont voir à l'expo. C'est-à-dire qu'en général, on s'est toujours arrangé pour faire une performance, pour faire une soirée DJ, pour essayer de faire quelque chose où en fait on ne vient plus. On voit les derniers, pendant la crise, on voyait les galeries faire des doubles vernissages, qu'on appelait des finissages. C'était un peu lourd et pompeux, quoi. Et pour les faire venir, en fait. Donc l'exposition dure tant. En général, le vernissage est toujours plus drôle parce qu'il y a toujours un événement. Donc les gens savent que ce qu'ils vont trouver au vernissage, ils ne vont pas forcément le trouver dans l'œuvre. Et là, ce sera plus dans le domaine de l'événementiel. Et après, l'exposition, on va montrer effectivement différentes pièces. Alors ça, c'est une expo, c'est une série que j'ai un peu toujours commencé. J'ai toujours eu un travail un peu sur affiche. C'est juste qu'un jour, on m'a dit, mais mets-les dans des cadres, ce sera beaucoup plus beau, quoi. Donc on a travaillé réellement là-dessus et c'est vrai que ça a apporté autre chose. En fait, c'est venu de travailler sur les affiches. J'adore qu'il y ait une mémoire sur ce que je vais utiliser comme support, comme médian. C'est-à-dire que quand je faisais une toile, au début, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais avant, j'étais incapable de peindre sur une toile blanche. Il fallait que je l'injecte de plein d'informations et de plein de couleurs avant de pouvoir l'attaquer. Ça me rassurait. Et donc sur l'affiche, j'avais déjà tout un tas d'informations, tout un tas de couleurs qui vont justement apparaître ou disparaître selon mes choix, quoi. Et sinon aussi, j'aime bien travailler aussi sur des supports déjà travaillés, parce que quand je partais en voyage, je faisais des carnets de voyage, et pendant les voyages, ceux qu'on achetait tout fait avec les belles feuilles blanches, on faisait 3-4 dessins, et puis les feuilles commençaient à voler dans tous les sens. Alors je mets dans les différents squats qu'on avait, on récupérait les vieux cahiers de comptes et les choses comme ça, et ceux-là sont très bien reliés, et les feuilles tiennent. Aujourd'hui encore, ces carnets ont toutes leurs feuilles, et aucune est partie. Donc il y avait toutes les inscriptions manuscrites dessus, de différents comptes, et donc après on les efface. Donc des fois, ça fait des vieilles lettres dans un grain de peau du personnage. On trouve plein de petits accidents. On en fait des petites histoires. C'est tout ce moment-là qui est assez agréable dans la création.
En fait, ça fait comme une espèce de patchwork. Tu as des éléments plus anciens, qu'on rajoute des éléments plus récents.
C'est vraiment ça, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de construire, de mixer, d'agencer. Alors, je vais le faire à travers la sculpture, où je vais me servir de petites pièces complètement différentes, issues des rebuts de l'industrie ou de la mécanique, et de ça, d'en faire quelque chose de vivant, un être, un personnage, à travers ma sculpture. Donc, ça sera toujours assez figuratif, ça sera un robot, un animal. Et donc, c'est tout un agencement de petites pièces ensemble. Dans ma peinture, je vais prendre tout un tas de petites icônes, personnages que je vais mettre ensemble pour créer aussi une autre idée. Donc, en fait, c'est vraiment, je suis inspiré en peinture. On peut... Héro faisait des choses comme ça, où il mixait les icônes comme ça ensemble. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de trouver un lien entre plein de petites informations qui, moi, m'ont plu. Et j'ai envie qu'elles se parlent. Mais je pense que c'est la même ligne, même si ma peinture est très différente de ma sculpture, c'est réellement le même mécanisme, le même fonctionnement, la même construction.
En étudiant ton parcours, j'ai observé cet intérêt pour les portraits africains.
Alors, oui, effectivement, j'ai fait beaucoup de portraits ethniques d'Afrique, plus que d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup plus voyagé en Afrique qu'ailleurs. Et qu'en fait, ces portraits, c'est une série ethnique que j'ai très peu exposée en France, mais que j'ai exposée en Afrique, qui est dédié réellement plus au continent africain, où en fait, ça venait de mes carnets de voyage, c'est tous les portraits que j'ai pu exécuter de gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai mangé, avec qui j'ai pris des taxis brousse, avec qui on a fait des choses. Et en fait, après, moi, en France, j'avais fait toute une série de toiles sur les portraits des gens qui m'avaient touché. J'avais une série de 28 pièces que j'ai exposées à Dakar, que j'ai exposées au Cap. qui était vraiment pour l'Afrique ou avec toute plus ethnique. Mais de ces dessins-là, j'en ai aussi d'Amérique du Sud, j'en ai aussi d'Asie, mais ils sont moins nombreux parce que j'ai été moins de fois là-bas. Et effectivement, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé voyager en Afrique. Je voulais faire une grosse partie de mon travail en hommage à l'art africain et travailler en même temps. Ça me permettait de travailler avec des artistes aussi des pays. Donc on faisait des échanges, on faisait des expos ensemble. Moi, pour moi, le portrait africain, c'est le meilleur moyen de communiquer avec les gens. C'est-à-dire que quand je les rencontrais, ben, on discutait, je faisais le portrait, on arrivait à des relations. Moi, ça m'a permis vraiment de voyager avec un super passeport, quoi, ce portrait. Et donc, ça a tellement été important pour moi pendant toute la durée du voyage qu'il fallait que je le matérialise dans ma création artistique d'une façon.
C'est amusant parce que ça a été la réflexion d'un de nos amis qui part en Chine, comme ça, qui est un artiste dans l'âme et qui s'installe en plein milieu de la place Tiananmen et qui se met à dessiner. Alors, il y avait les gardes rouges chinois qui commencent à le regarder avec un air un peu bizarre en disant qu'est-ce que c'est que ce type, est-ce qu'il essaye de faire une manifestation. Et par le dessin, en fait, il a réussi à attraper les gens et à pouvoir discuter avec eux, tout par le dessin.
C'est très vrai. C'est très vrai. Pour vous donner des anecdotes aussi dans ce principe-là, une fois, ça m'est arrivé de dessiner une personne, une femme qui était en train d'allaiter son enfant dans la rue. Et je m'étais toujours dit, on a fini par prendre le thé ensemble et je lui ai donné un dessin et j'ai fini le mien. Je serais arrivé avec un appareil photo, je pense que ça ne serait pas bien passé.
Oui.
Ou alors aussi, peut-être un truc un peu plus tendu, une douane un peu longue. Les postes de douane en Afrique, ils sont toujours assez compliqués. On ne doit pas donner les papiers tout de suite, faut attendre, et donc des fois c'est un peu tendu, ça a des lunettes noires et une kalachnikov et puis ça discute pas, donc on peut se plonger complètement dans un dessin et attendre que le temps passe. Ou alors dans une situation un peu conflictuelle, dans un milieu fermé type train, où la personne on peut s'évader d'une discussion qui va être une embrouille, ça peut être une protection, ça peut être aussi quand on voyage. Ça c'était plus en Polynésie, quand je voyageais, je dessinais, les gens, je dessinais, j'étais pas un voleur, j'étais pas un brigand, j'étais invité à manger, c'était, le rapport était assez sain en fait. Je trouvais que c'était une très très belle façon de voyager. Et j'ai vu énormément de carnets de voyage de gens qui sont pas forcément des dessinateurs, etc. Je trouve que on partage le voyage à travers que ça soit en écrit. Le carnet de voyage, je trouve que c'est vraiment quelque chose de... C'est un très très bon passeport, quoi, pour voyager. C'est quelque chose à pratiquer.
C'est vrai. Moi, j'ai un exemple comme ça où j'étais en opération archéologique à Gorée. Et le matin, je me suis levée à 5h du matin. Enfin, 5h, chose comme ça. Je suis allée me balader dans Gorée. Et puis, à un moment, je vois, il y avait les bateaux militaires de français qui étaient arrivés. Et donc, on avait cette vieille ville de Gorée avec ses bâtiments style
rouge,
français ouais. 18e siècle,
colonialiste,
qui sont très beaux.
Ouais.
Et on avait ces coques de bateaux et de bâtiments de la marine nationale qui se dessinaient derrière. Et je m'étais arrêtée avec mon stylo, je prends mon carnet et je dessine. Et à 5h30 du matin, il y a un Africain qui est arrivé et qui me dit « Tu dessines ?» Et regarde là, il me fait à 5h30 du matin. Et c'est comme ça qu'il y avait une amitié qui était née à ce moment-là, par rapport au dessin.
Ouais, ça donne. C'est vraiment pas quelque chose basé en général sur l'agressivité, sur. Non, puis les gens sont assez curieux. Moi, par exemple, ça m'a servi aussi à perdre l'identité, par exemple, du toubab qu'on peut avoir quand on
oui,
se balade et
vrai.
Qu'on est blanc au milieu des marchés.
Tout
à un moment, il y en avait marre, je me suis sauté dessus, je me suis assis dans un coin, il y avait un étalage de légumes, je me suis mis à dessiner les légumes. Et en un quart d'heure, il y avait 7 personnes qui attendaient pour que je leur fasse leur portrait.
Ouais.
Et ils avaient oublié que j'étais le gars qui dessine. J'étais plus le toubab pour quelques secondes, ce qui m'avait fait du bien. J'ai pris mon souffle et je suis reparti.
Alors, que t'apporte la sculpture, en fait, justement, cette représentation artistique en 3D, qu'est-ce que ça t'apporte de plus que
la
peinture ?
La peinture, je suis quelqu'un d'assez physique, j'aime bien me dépenser, choses comme ça. La peinture, c'est quelque chose où je vais complètement me fermer, c'est plus un travail d'autiste. J'ai besoin des deux, à différents moments, en fait. C'est comme ça me permet de respirer. Sinon, la sculpture, ça se partage, on y manque toujours une troisième main, donc on travaille toujours avec un assistant, toujours avec des gens, les transports c'est lourd, donc c'est autre chose, c'est une autre équipe. Et ce que j'aime bien, oui, il y a deux trucs en fait, c'est premièrement, j'ai été pas mal traumatisé par un sculpteur pour qui j'ai travaillé quand j'étais jeune, qui m'a vraiment, il m'a fait voir la sculpture comme un énorme potentiel d'expression infini. Donc j'ai plein de choses à faire dedans. Donc c'est vraiment là-dessus. Sinon, après, j'ai toujours aimé construire aussi en trois dimensions. C'est-à-dire que la sculpture est une chose, mais dans pas mal de à l'époque où je ne pouvais pas vivre de mon art, je faisais énormément de déco, donc je fabriquais. Les choses. J'aimais bien que ça soit en 3D, mais en 3D réel, pas 3D infographie.
Alors, ce sont des sculptures plus métalliques, d'après ce que je comprends.
Alors, j'ai cherché ma matière pendant un moment. Oui. J'ai été formé avec justement un sculpteur qui faisait du métal. J'ai essayé plein d'autres matières. Le métal, ce que ça m'apportait, c'est la solidité, de pouvoir mettre du poids en hauteur et d'une façon assez légère. Puisque avec du bois, si on veut faire tenir un gros poids, il faut plusieurs poutres, tandis qu'une seule barre de métal qui a la bonne force peut porter une énorme boule plus haute. Avec des porte-à-faux, on peut plus facilement travailler là-dessus. Ce qui m'amuse là-dedans, c'est comme le jeu patatras, où on va monter quelque chose et qu'il faut que ça tienne sur son propre équilibre. Donc ça va m'intéresser en sculpture, par exemple, dans tout mon jeu de sculpture, ce qui va le plus m'amuser, c'est de respecter, de ne pas mettre de socle, Et que la sculpture tienne sur ses pieds. Alors bon, quand c'est des bipèdes, c'est un jeu très drôle. Quand c'est sur trépied, c'est beaucoup. Quand c'est des animaux sur quatre pieds, c'est encore plus simple. Mais quand c'est sur deux pieds, on a tout un jeu d'équilibre où en fait, on se rend compte qu'en respectant les aplombs, c'est-à-dire les lois de cet équilibre et les proportions, que en général, je m'identifie aux proportions humaines, c'est-à-dire le Vinci, et on a tout de suite, à la fin de la sculpture, si la sculpture tient debout, le mouvement existe. Parce qu'à partir du moment où on a respecté ces deux codes, la sculpture est forcément dans un déhanché qui est logique par rapport à notre gravité. Donc on a tout un jeu d'installation. Donc en fait, une sculpture, quand je vais la créer, c'est pas du tout comme une peinture où je vais avoir plein de petits dessins que j'ai faits, que je vais mettre comme ça, et je vais faire celui-là, je l'ai oublié, il faut que je le rajoute. Là, je vais travailler sur une idée centrale qui va être je veux faire un robot où j'ai trouvé une tête que je trouvais vraiment formidable, et j'ai fabriqué toute ma structure pour pouvoir poser ma tête au bout. C'est-à-dire qu'en fait, mon robot, je ne sais pas exactement dans quelle position il va être. Je suis incapable de faire un croquis avant de l'avoir exécuté. Parce qu'il y a tout ce jeu, et en fait, c'est toute cette magie, c'est tout ce moment de partage avec la pièce qui va être super intéressant. Donc c'est un travail beaucoup plus intuitif que dans ma peinture, et je pense avoir besoin des deux. Ça me permet. En général, je fais de la peinture et quand je m'ennuie, je vais faire de la sculpture. Et la sculpture, en fait, me dépasse. Et là, je retrouve une nouvelle énergie et je peux me remettre à la sculpture. Sinon, je vais m'endormir sur un même thème en peinture. Ça me permet vraiment de faire des breaks. En même temps, je vis comme ça. Mon atelier est dans le sud de sculpture. Mon atelier de peinture est dans le nord. Donc, ça me permet aussi de faire un break à différents niveaux.
Est-ce que tu serais intéressé par le mouvement en sculpture? C'est-à-dire, tu parles souvent de robots, mais en l'occurrence, tes robots sont fixes. Ils ne bougent pas. Est-ce que tu serais intéressé justement par créer du mouvement en jouant sur les équilibre.
Tel Calder, ça pourrait être intéressant, effectivement. En fait, le mouvement, c'est un parti pris depuis le début, où j'ai jamais voulu faire de choses qui bougent. Je préférais avoir l'instant de mouvement figé que de bouger. Alors pour ça, il y a une raison, c'est que l'artiste pour qui je travaillais était Jean Tinguely, qui est un artiste qui fait que des sculptures en mouvement. Après, pendant des années, j'ai bossé on bossait à deux. Enfin, j'ai travaillé avec un autre artiste qui faisait des sculptures en mouvement, qui s'appelait Malachi Farrell. Et en fait, moi, j'avais envie d'avoir quelque chose de plus personnel et d'une sculpture. Ma sculpture, moi, elle n'a pas besoin. C'est un peu plus comme une photo. C'est un sentiment figé. C'est pour le rendre intemporel, en fait. Parce que en travaillant pour les autres artistes qui faisaient des sculptures en mouvement, j'adore leurs pièces. Mais par exemple, après la mort de Jean, il faut réparer les pièces. Et les pièces sont perpétuellement cassées parce qu'il y a des motorisations et que tout est très fragile et qu'en fait, ça tient très rarement le temps. Aujourd'hui, dans les dessous de Beaubourg, il y a tout un tas de sculptures qui sont à réparer, qui ne sont pas exposables parce qu'elles sont en morceaux. Alors qu'un plâtre ou ces choses-là tiennent le temps. Donc j'adore tout ce qui est mouvement, mais pour moi, tout ce qui est mouvement s'use beaucoup plus vite. Par contre, pour ne pas parler des robots qui seront avec des cartes mères de la micro, du matériel de pointe, qui une petite surchauffe, c'est une panne. J'ai pas envie de faire ça moi. Maintenant, je trouve qu'il y a des gens qui sont excellents dedans, en plus, qui vont vraiment. Il faut vraiment suivre ta pièce, c'est ton bébé. Tu peux pas le laisser vivre. C'est pour ça, déjà avec le métal, les pièces que je faisais qui étaient mises en extérieur chez des gens, quand c'était de l'acier, j'aime pas les laisser vieillir, justement. Donc assez souvent, j'allais refaire une patine pour leur remettre un coup de frais de neuf. Et au bout d'un moment, j'ai lâché l'acier pour travailler avec de l'inox qui ne rouille pas, qui ne va pas s'oxyder et qui va vieillir avec la goutte d'eau qui va pleuvoir toujours au même moment, qui va lui laisser une marque, mais la couleur du chrome à côté ne sera jamais rouillée, elle sera toujours bing, et où la mousse va pousser par en dessous, mais la sculpture va pouvoir vivre sans se détériorer en fait. Ça m'a un peu traumatisé de voir des pièces que je trouvais sublimes en morceaux et personne ne peut la réparer, l'artiste est mort, les conservateurs disent non, si tu la répares, elle ne va plus ressembler, elle ne va pas ressembler à ce qu'elle était, et qu'en fait elle reste cassée quoi. Dans une boîte,
oui,
c'est dommage.
Ce qui n'est pas la volonté de l'artiste.
Ce qui est vraiment dommage, je trouve. Et alors que l'artiste, lui, l'aurait attrapé, il l'aurait réparé, elle était réparée, elle repartait. Mais lui n'est plus là pour le faire. Et maintenant, il faut plein d'autorisations, sinon on va casser la ligne du maestro.
On ne peut pas considérer, parce que c'est vrai que lorsqu'on voit une sculpture animée, on pense tout de suite à Automate.
Les automates, c'est très très beau. Il y a un beau musée à Paris avec tous les automates.
Qui sont des œuvres d'art.
Qui sont des œuvres. Enfin, pour moi, c'est des sublimes œuvres d'art, bien sûr.
Tu les verrais pas plutôt dans le genre automate ? C'est différent.
Ben, en fait, œuvre d'art, les automates, ça dépend de ce qu'on leur fait dire, on va dire. Par exemple, si le concept de mon installation robotisée développe un certain message, y a un concept artistique, on est sorti de juste un objet qui bouge. Mm-hmm. On a tout un concept, en fait. Donc pour moi, on va toucher l'art à partir du moment où il y a le concept. Au fond, il y a tout de même un concept dans un automate qui joue juste du piano, il est juste là pour jouer du piano. Mais je pense que l'art aujourd'hui, c'est quelque chose de quand même très, 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 très vaste. Et on peut trouver, avec les explications, on ne comprend pas forcément où est le point de vue artistique d'une pièce, mais avec l'explication de la personne, aujourd'hui, on peut retrouver des choses, parce qu'on a une tonne de codes et beaucoup de choses ont été faites. Donc après, souvent, on a besoin d'être initié pour comprendre des choses. Il y a plein de choses, en premier œil, on passe complètement à côté. Ce genre de choses. Maintenant, les automates.
Non, les automates. On ne veut pas non plus s'étaler sur les automates.
Non, les automates.
Je voulais revenir à ce que tu viens de dire à propos de ces sculptures animées qui ne sont pas réparées et qu'on ne veut pas le faire pour ne pas, détruire l'esprit de l'artiste. J'y pense parce que tu as dessiné la Joconde. Le fait que les vieux tableaux, les tableaux de la Renaissance et autres, sont pourtant repris par des conservateurs et ils remettent l'éclairage qu'il y avait à cette époque-là, et ils éclaircissent le tableau. Donc, de toute façon, pour certains tableaux, pour certaines œuvres d'art, la main d'aujourd'hui apparaît.
Effectivement, c'est vrai. Alors peut-être que ces artistes-là ne sont pas morts depuis assez longtemps pour qu'on répare correctement leurs pièces, ça c'est sûr. D'ailleurs, même dans la rénovation, on découvre des fois que le tableau original n'était pas tel qu'il était. Il y a un Véronèse comme ça au Louvre qui l'ont découvert. Non, et au niveau de l'âge de Conde, moi ce qui m'intéressait de la faire, c'est que j'ai fait énormément de portraits et que je trouvais drôle de la typer un peu, d'en faire une métisse de Conde. Dans toute ma galerie de portraits, je voulais avoir l'âge de Conde aussi, parce que c'est le tableau le plus connu en fait, et que c'était sur un travail le portrait. Pour moi, c'était une étape obligée. Ça faisait plusieurs années qu'on me charriait, qu'on me disait « Ah, mais refais une âge de Conde, tu vas te marrer », et c'est vrai que j'avais fait poser une copine qui avait des faux ongles, qui était antillaise, qui était incroyable, et j'avais mis ce regard un peu décalé qu'a l'âge de Conde, qui permet de suivre toujours les gens dans la pièce, et c'est très intéressant de travailler sur le tableau qui doit être le plus connu du monde, et qui est un portrait en plus. C'était un moment que je me préparais, je n'avais envie d'y passer un jour. Beaucoup de gens l'ont traité, l'âge de Conde en plus. C'est vraiment quelque chose dans le parcours d'un peintre, quand on fait des hommages, je pense que c'est vraiment un tableau par lequel on passe, quoi.
Alors j'ai été très très séduite par les couleurs que tu utilises sur tes tableaux. Il y a un moment, j'ai pensé à Libertowski qu'on a reçu ici, où tu as des couleurs qui sont assez translucides, une espèce de transparence dans tes couleurs et qui sont excessivement lumineuses. Et je voulais savoir avec quel matériel tu travailles.
Alors je mélange tout. C'est-à-dire qu'en fait, je travaille énormément au jus, ce qui va me permettre d'avoir plein justement de le jus, c'est-à-dire que ma peinture est énormément diluée. Donc à la base ça peut être de l'huile, ça peut être de l'acrylique, ça peut être de la gouache, ça peut être du marqueur encore par-dessus. En général j'aime bien mélanger un peu différents matériaux. Quand on a de la lumière comme ça et de la brillance, en général c'est des jus d'huile qui sont dessous. Et en fait, le tableau, c'est pas comme la peinture au pinceau, la technique est un peu différente, celle que je vais utiliser, de la bombe, qui est une peinture d'effet, où très très rapidement on arrive à faire un effet d'une planète qui tourne. Si on veut faire une planète qui tourne avec les pinceaux, en général il faut faire une dizaine de jus pour avoir la bonne lumière qu'on veut, une dizaine de passes, attendre que ça sèche, on est beaucoup moins rapide en fait. C'est pour ça que ça ne s'exerçait pas dans la rue et que la bombe est super pratique justement pour tout ce qui est réalisation rapide, parce que très très vite on peut faire les effets, ça sèche en 2 secondes, c'est excellent pour ça. Alors, à ma peinture, oui, j'ai les transfis, parce que j'aime bien justement que le grain de beau, ça ne soit pas des aplats. Le travail en aplats, je parlais tout à l'heure de ma peinture peut ressembler à Héros, justement, je parlais de ce peintre. Justement, j'évite de faire des aplats. Déjà, ce n'est pas ma façon de m'exprimer. Ça ressemblerait trop à ces tableaux, je pense, ou des speedy graffito aussi, où justement leurs couleurs sont des couleurs vraiment définies. Moi, j'aime bien que, par exemple, la peau, on ait l'impression qu'elle tourne, elle n'a pas la même couleur à tel et tel endroit, comme un veston qui se plie. Et ça, tous ces accidents, en fait, j'aime travailler sur ces accidents. Et les accidents, je vais les créer justement en passant mes jus avec différentes matières qui vont des fois faire des réactions. Mon huile pas sèche, je vais mettre de l'acrylique à l'eau par-dessus, ça va faire des espèces de bulles, ça va sécher, ça va être superbe. Il ne manquera plus qu'une petite pointe de lumière et on a un voilage, un truc... Ça, on va le découvrir au fur et à mesure dans la pièce.
Christophe, as-tu des questions ?
Oui, la petite question traditionnelle. On a un slogan qui est le suivant, je vais te le lire, je vais te demander de réagir. C'est une phrase de Lucas Spira, qu'on a déjà reçue plusieurs fois, qui dit « L'art est retombé aux mains d'une certaine aristocratie qui, si elle ne censure plus les contre-cultures, les ignore. Elle se nourrit de ses propres déchets, produisant ainsi un art insipide et consensuel. C'est face à cette culture autophage que les contre-cultures prennent tout leur sens. » Qu'est-ce que tu penses de ça ?
Alors, qu'est-ce que je pense de ça ? Je pense que je comprends ce qu'il veut dire. Je pense effectivement que les contre-cultures sont à développer. Elles sont vraiment écrasées. Effectivement, on va très vite. Quand l'institutionnel vient se poser, etc., en fait, on perd un peu la démarche primaire qui était en fait le besoin de dire quelque chose. C'est compliqué, sa phrase. Elle est vraie, elle est dangereuse.
Est-ce que tu as l'impression d'être dans une contre-culture ?
J'ai eu l'impression, j'ai toujours eu l'impression d'être dans une contre-culture. En même temps, je respecte toute la culture qu'il y avait avant aussi. Enfin, la plupart des. Enfin, je la prends comme un fait établi. Il y a des choses que j'adore qui m'inspirent dans cette culture d'avant. J'adore autant un Caravage qu'un John Wayne. J'aime la peinture en général. Moi, ce que j'aime, en fait, c'est les artistes et ce qu'ils ont à me raconter. Donc, souvent, il est vrai que. C'est le point de vue financier qui va emmener, je pense, vers ce problème d'insipidité, où la personne va se rendre compte que tel tableau, à un moment, était un moment où tu as vraiment pris ton plaisir à le faire. On va te dire, ah oui, les rouges, c'est bien les rouges, il faut faire plein de rouges. Et qu'on va le travailler pour faire des rouges, pour une histoire. Et là, on va perdre tout le jus, et à ce moment-là, on devient complètement insipide. C'est vrai, il faut pouvoir se préserver de ce truc-là. En même temps, plus on nous ignore et moins on a notre place dans la culture, je pense qu'on est une contre-culture qui est en train de se poser. Mmh. On était une contre-culture pendant bien longtemps. Aujourd'hui, le street art, on commence à pouvoir le développer, se poser. Mais comme je vous disais, aujourd'hui en France, le street art, c'est vraiment le graffiti. Et c'est jeune encore, les choses que j'essaie de représenter depuis une quinzaine d'années. On est quand même très peu en France, alors qu'on va voir en Hollande, en Allemagne et dans d'autres pays européens. Plein de choses qui se passent à travers la rue qui ne sont pas forcément que des graffitis, quoi, qui peuvent être de la sculpture, sur les affiches, sur des décorations de panneaux, sur des fausses signalisations, sur tout un tas de trucs, sur des choses très drôles en général. Et il faut à tout prix développer le sujet, parce qu'en fait, eux sont là pour mettre les choses dans une boîte. Aujourd'hui, ils disent que le street art, c'est le graffiti, ça y est, ils l'ont mis dans une boîte, ça peut être institutionnel. Il ne faut pas se laisser mettre dans la boîte, il faut montrer qu'on est une vraie pieuvre avec plein de ramifications, et que ce truc n'est pas mettable dans une boîte tout de suite encore, qu'il y a encore plein de choses à faire et à vivre et à lever. Je dis le street art, c'est un peu toute notre génération de mix où on va prendre des informations. Avant, il y avait les vieux groupes, les Stones, et avant ça, des Mozart, etc. Aujourd'hui, on va reprendre un petit bout de Mozart, un petit bout des Stones, on va se le mixer ensemble. C'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui. Il y a effectivement une vraie création de choses, mais c'est la création de notre temps. Et je pense que c'est super important. On est peut-être arrivé à l'heure où on se sert des bonnes énergies et on essaye d'en faire quelque chose. C'est pas parce qu'on n'a plus d'idées, c'est parce qu'il est temps de savoir les mixer, je pense, ces informations. Maintenant, j'ai absolument pas répondu à ta question. Cela dit...
Ta réponse est quand même très intéressante.
Cela dit, je suis assez d'accord avec lui. Aujourd'hui, en France, j'ai l'impression qu'on a un petit peu un métro de retard au niveau de notre patrimoine culturel et artistique, alors qu'il y a des gens d'exception, qu'il y a énormément d'artistes avec énormément de talent qui demandent à vraiment être découverts. Et il y a des choses très intéressantes. Je pense pas qu'on soit réellement endormi. Je pense que c'est contrôlé. La surface est peut-être endormie, mais il y a tout un bouillon dessous qui de temps en temps lâche quelques brides quand même. C'est pas une cause perdue. Ce que je veux dire, c'est que sa phrase, pour moi, j'aimerais qu'elle me donne de l'espoir plutôt qu'elle me dise
que c'est juste une manière de dénoncer un peu le mépris affiché par le par l'institutionnel et entre guillemets les bien-pensants vis-à-vis de certaines cultures. Lucas, en l'occurrence, pour parler de lui rapidement, ça fait 15 ans qu'il fait du travail sur le corps et il a fait sa première performance à Paris il y a 10 ou 15 jours, je crois. Donc en 15 ans, il n'était jamais venu montrer son travail à Paris.
À Paris. Et lui, voilà.
Une fois à Lyon, une fois à Nancy. D'accord. Il voyage dans le monde entier, il va partout. Mais à Paris, en 15 ans, c'était la première fois, aux alentours du 15 novembre, je crois.
Non, mais c'est bien parce qu'en même temps, quand il parle de ça, c'est justement qu'il a quelque chose à faire connaître, il a quelque chose à revendiquer. Donc déjà, ça aiguise un peu la curiosité, quoi. C'est toujours plus sympa que oh, on connaît, on a déjà vu, on a déjà tout vu, on est blasé. Ben non, on a tous vu des Lara Croft et ben on va pas la voir dans ce sens-là. Tiens, mettons-la dans ce sens-là. C'est... Et puis à côté de Napoléon, histoire de rire. Je pense qu'il faut pas se laisser enfermer. Il y a une vraie bataille à mener, ouais, effectivement. Oui, faut pas la. Je pense que c'est à partir du moment où on voit plus la bataille, c'est qu'on est plus dedans.
Dernière question que je voudrais poser, justement en parallèle à ce que vient de dire Christophe. Dans certains sites parlant de toi, on dit performance. Alors je vois que c'est le mot qui a été utilisé également, Lucas Pira, pour ce qu'il fait sur son corps. Toi, dans tes vidéos, on parle également de performance. Alors, performance, pour moi, c'est un sportif. Il fait une performance, il fait sa course à pied sur 42 km ou ce qu'on veut. En quoi est-ce une performance? Parce qu'une œuvre d'art peut être faite en 5 secondes comme en des mois. On le sait, mais en quoi est-ce une performance?
Alors, la performance, elle est en premier lieu dans le fait que c'est une œuvre qui est réalisée devant un public. Entre l'artiste et lui, il y a le public. C'est une démonstration, c'est un show en fait. Je pense que
c'est une représentation.
Voilà, c'est une représentation. Donc c'est un petit sketch du travail en live. Et maintenant, performance, c'est le mot qu'ils ont posé pour faire les happenings, comme ils pouvaient plus s'appeler il y a quelques années. Je pense que c'est exactement la même chose. Mm. Performance, c'est le mot tendance.
Les Américains utilisent beaucoup plus le mot performeur, performance.
Voilà,
que nous,
performeur.
Les artistes, les chanteurs, quand ils vont en studio, des fois sur les albums, ils sont crédités en tant que performeur.
Alors, et dans la performance, ce qu'on peut voir, en fait, c'est démontrer la réalisation devant des gens, démontrer un mur vide, il est plein, ou des arcs à os qui vont peindre en se projetant, c'est complètement de la performance, on peut voir ça comme ça. Il y a aussi dans la performance, il y a ce qu'on appelle les installations. Il y a la performance où c'est une pièce qu'on va peindre ou une sculpture qu'on va lever devant des gens, mais aussi ça peut être dans l'installation de gens qui vont faire tout un milieu autour avec des luminaires, des choses. C'est un moyen, en fait, quand je vous disais d'une exposition, le vernissage, ça devait être quelque chose de plus festif ou c'est dans l'événementiel. Je pense que la performance, c'est de l'événementiel. C'est forcément pour avoir une réaction directe avec le public.
Ça, ou pour se dire « je suis capable de le faire »
Ah, pour prouver aux autres qu'on est capable de le faire.
Oui.
Parce que soi-même, il faut qu'on puisse le prouver déjà avant, parce que sinon c'est compliqué. Après, il y a des gens qui ne peuvent pas fonctionner du tout en performance. Ils ont besoin d'être dans un conditionnement et ce n'est pas du tout leur travail. Moi, j'ai un travail qui s'y prête bien à faire justement, parce que quand je fais de la sculpture, c'est quelque chose. Bon, les performances que j'ai fait en sculpture étaient quand même préparées à l'avance, parce que monter une vraie sculpture peut me prendre des semaines, alors que devant des gens, je vais la monter dans un set de 20 minutes. Donc ça va être un peu comme un Lego que j'aurais monté et j'ai à remonter. En plus de ça, je vais bosser sur une attraction lumineuse, qui est très drôle, parce que je vais utiliser l'arc, donc ça va faire des faisceaux de lumière. Mes performances, je vais les faire la nuit, et on va avoir toutes sortes de trucs. Ça va faire atelier de Vulcain, il va y avoir tout un set, donc c'est vraiment un jeu. Performance, c'est, on m'a dit ouais, on va faire des performances, j'ai dit ok, mais on m'aurait dit on va faire un show, j'aurais dit ok aussi. Pour moi, c'est le mot qu'ils ont choisi. C'est comme nous, on était street art depuis toujours, et puis quand la première fois qu'on a eu vraiment un musée officiel qui nous a pris, ils nous ont dit on vous a fait un département urbain, voilà, parce qu'ils supportaient pas le mot street art. Mais enfin, pour nous, bah, je prends aussi street art urbain, c'est pas.
Eh bien, merci beaucoup, Fredich. J'ai encore énormément de questions à te poser. Peut-être pas pour cette exposition, là, mais pour une prochaine, tu reviendras.
Bah, volontiers. Passer un très bon moment avec vous.
Parce que j'en ai encore beaucoup, 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 beaucoup.
Parce que par ces temps froids, c'était quand même très chaleureux et très sympa.
Bien, je rappelle que du mercredi au 8 décembre 2010 jusqu'au 15 décembre, il y a l'exposition Pimp Press au 19 rue de Miroménil, Galerie GZ, dont vous verrez les nouvelles toiles de Fredich. Papritz.
Merci à
vous. Merci Fredich. Bonne journée.
Et bonne journée.
Merci Christophe.
Merci
à très
deux.
Bientôt à vous deux.
À très bientôt.
Bientôt.
Autre radio, autre culture. Au revoir. Autre radio, autre culture.